Et les matins vont débuter immédiatement avec le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les pays de l'Union européenne rouvrent au compte-gouttes leurs frontières avec le Royaume-Uni. C'est le cas de la France après de longues discussions entre Paris et Londres. Nous y reviendrons avec Stéphane Robert.
Et puis nous reviendrons également sur la stratégie vaccinale française, ou plutôt sur ce que la France devrait éviter de faire après l'échec de la campagne de vaccination contre la grippe A. C'était en 2009.
Nous entendrons l'appel au secours de l'ONG CARE qui dénonce les conditions de vie insupportables des réfugiés éthiopiens du Soudan. Et puis nous ferons un focus sur le succès de la programmation en ligne de la Comédie française. Après ce journal, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Anne-Laure, on va évoquer le canard, mais le canard enchaîné, le numérique pour survivre. Nous serons en compagnie de Nicolas Brimaud, il est directeur des publications et de la rédaction du Canard enchaîné.
Le cordon sanitaire se desserre un peu entre le Royaume-Uni et la France avec cette nuit la réouverture du port de Douvres. La branche Europe de l'OMS doit se réunir ce matin pour mettre au point une stratégie. On rappelle que c'est cette nouvelle souche très contagieuse du Covid-19 qui est au centre de l'attention des autorités sanitaires après avoir contaminé une partie de l'Angleterre. L'Angleterre qui redoutait de devoir subir une pénurie de ses approvisionnements pendant cette période de fête et alors que se négocie toujours un potentiel accord de Brexit. Les discussions entre Paris et Londres ont finalement débouché hier sur la permission pour les résidents français vivant au Royaume-Uni de rentrer chez eux, avec une condition cependant, l'obligation de passer un test. Le point avec Stéphane Robert.
Les négociations ont duré 2 jours entre les autorités françaises et britanniques pour aboutir à l'accord intervenu hier soir. Il autorise les ressortissants français résidant au Royaume-Uni à revenir au pays pour les fêtes de fin d'année. Les Britanniques, qui vivent habituellement en France, peuvent également rentrer chez eux. Les résidents d'autres pays européens qui ont besoin de transiter par le sol français ont aussi l'autorisation de franchir la frontière, ainsi que ceux qui ont un besoin indispensable de le faire, sont considérés par exemple comme déplacements indispensables ceux d'un diplomate, d'un marin-pêcheur ou encore d'un universitaire qui doit aller donner un cours. La condition est que chacun passe un test, PCR ou antigénique, si le test antigénique est sensible à la nouvelle souche de coronavirus qui sévit outre-Manche. Ce test doit être présenté à la compagnie ferroviaire, aérienne ou maritime, selon qu'on prend le train, l'avion ou le bateau. Il doit avoir été réalisé moins de 72 heures, c'est-à-dire moins de 3 jours avant, et bien sûr se révéler négatif. Ces mesures, entrées en vigueur hier soir à minuit, s'appliqueront au moins jusqu'au 6 janvier, indiquait hier soir le communiqué de Matignon, sous réserve qu'un réexamen bilatéral ou européen interviennent d'ici là.
La Belgique et les Pays-Bas ont adopté des mesures similaires. D'autres pays de l'Union européenne préfèrent attendre, comme l'Allemagne qui a coupé ses liaisons avec le Royaume-Uni jusqu'au 6 janvier. Pour l'instant, donc pas de politique européenne coordonnée. En revanche, la politique européenne de vaccination de masse a été validée, elle. Et en France, cela commencera à petits pas ce dimanche, à tout petits pas même, puisque selon le ministre de la Santé, seuls quelques EHPAD de région parisienne et de Bourgogne-Franche-Comté feront partie des établissements qui recevront les premières injections. Priorité sera donnée à leurs résidents et au personnel soignant des EHPAD sur la base du volontariat. Puis, la vaccination se fera plus massive dans un deuxième temps. La dernière grande campagne de vaccination à cette échelle, c'était celle de la grippe A contre le virus H1N1 en 2009-2010. À l'époque, toute la population était invitée à se rendre dans des gymnases pour se faire vacciner, une stratégie qui s'était révélée inefficace. Moins de 9% de la population s'y était rendue et sur 94 millions de doses commandées, seules 6 millions avaient servi. Expérience qui doit nous servir de leçon. C'est ce que pense Daniel Floret, ancien président du comité technique des vaccinations à l'époque, aujourd'hui vice-président de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Pour lui, il faut à tout prix éviter les grands barnums.
Il ne faut pas que ça repose exclusivement sur un système comme ça. C'est vraiment ce qui n'a pas marché en 2009. On pensait que les médecins seraient occupés à soigner les malades et que la vaccination serait peut-être pas leur priorité, ce qui fait que on a vacciné dans des centres de vaccination dédiés avec un personnel du système public et on a mis de côté les médecins traitants, les médecins généralistes. Ce qui a été une erreur, on sait très bien que le facteur dominant pour décider de se faire vacciner ou pas, c'est l'opinion de son médecin. Au départ, les gens étaient très volontaires pour se faire vacciner. On avait un taux d'adhésion de la population qui était de l'ordre de 70%, etc. Et puis, au fil des semaines, les gens n'ont plus voulu se faire vacciner. C'est une erreur qu'il ne faut pas reproduire, ça c'est clair. On a quand même beaucoup bénéficié de l'expérience de ce qui s'est passé en 2009-2010 pour essayer d'éviter de reproduire les mêmes erreurs.
Daniel Floret, interrogé par Laurine Benjebria. Les conséquences économiques de la pandémie, elles, n'ont pas fini de se faire sentir. De façon générale, cette année sous Covid aura marqué de façon profonde et sans doute pérenne de nombreux pans de la vie économique. C'est d'ailleurs le thème des reportages de la rédaction toute cette semaine. Tout à l'heure, à 7h25, nous nous intéresserons aux conséquences de l'épidémie dans le secteur aéronautique qui expérimente la plus grave crise de son histoire. Des dizaines de milliers de postes vont être supprimés dans les prochains mois, rien qu'en France, en particulier chez les sous-traitants, d'où l'appel à la relocalisation lancé par certains de ces sous-traitants. Johan Clocher, directeur général de l'entreprise Aérotech Conseil à Blagnac, près de Toulouse, estime par exemple que les millions d'euros versés par l'État pour la filière doivent servir à cela.
Je rappelle que les subventions qui sont données, les aides qui sont données, restent quand même des impôts des Français. Quand on a lancé une chaîne industrielle, quand on a lancé de la sous-traitance en pays à meilleur coût, alors on ne va pas parler de bas coût, mais de pays à meilleur coût, je pense qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Mais néanmoins, quand on arrive dans une crise telle que celle-ci et qu'on continue de sous-traiter à l'étranger, je pense qu'à un moment, on devrait faire des efforts beaucoup plus importants pour privilégier un écosystème local. Je pense qu'il serait bon ton, en effet, de pouvoir travailler avec son petit voisin qui est à 5 minutes de la maison plutôt que d'essayer de travailler dans des sociétés avec 10 heures de décalage horaire, 8 heures de décalage horaire, de devoir organiser des réunions, des négociations qui sont loin et de pressuriser nos sous-traitants qui sont toulousains ou voire nationaux. Hein. Je ne veux pas faire du protectionnisme départemental. Je veux dire, à un moment, il faut absolument que la France puisse consommer français et puisse aller chasser à l'international. Donc le but pour moi, il n'est pas de fermer les frontières et de se refermer sur nous-mêmes, bien au contraire. Pour moi, c'est comment on arrive à travailler ensemble, main dans la main, et comment on peut aller chasser à l'international ensemble.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi, qui signe donc le reportage de la rédaction à 7h25.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Le Soudan et l'Éthiopie discutent depuis hier de leurs frontières communes. Des discussions très tendues qui font suite à la guerre du Tigré, une région éthiopienne, de laquelle sont partis des milliers de réfugiés.
Oui, il serait 50 000 environ à avoir trouver refuge au Soudan pour échapper à cette guerre civile entre le pouvoir central de Khartoum et les indépendantistes de Tigré. 50 000 personnes qui manquent de tout. L'ONG CARE, qui travaille sur place dans des conditions extrêmement difficiles, lance l'alerte sur leur situation. Nathanaël Charbonnier.
C'est bien simple, quand on demande à Hussein Tesfé de l'ONG CARE d'évaluer la situation, sa réponse est sans ambiguïté.
Sur une échelle de 1 à 10, on est à 10.
10 sur l'échelle de l'horreur, car il faut savoir que les réfugiés éthiopiens arrivent au Soudan, un pays qui est lui-même en crise.
La crise économique au Soudan est immense. Même le gouvernement soudanais a déclaré l'état d'urgence économique en septembre dernier. L'inflation dépasse les 200%.
Crise au Soudan et à sa frontière avec l'Éthiopie, où les dizaines de milliers de réfugiés manquent de tout. Ils manquent de nourriture, manquent d'eau ou tout simplement d'un toit pour dormir.
La plupart des réfugiés dorment sous des arbres. Les femmes n'ont aucune intimité si elles ont leurs règles. Elles aimeraient avoir un endroit où se changer, mais c'est impossible.
Crise humanitaire à laquelle on pourrait ajouter une crise sanitaire avec la pandémie de Covid, mais sans moyens, sans test, il est impossible de connaître la situation réelle.
Pour moi, on est juste dans un grand trou noir en espérant que le Covid n'arrive pas ici, mais en vrai, on n'en sait rien.
Et l'ONU a réclamé hier une aide d'urgence de 128 millions d'euros pour passer les premiers mois de 2021.
Nathanaël Charbonnier. Donald Trump, de plus en plus isolé dans sa stratégie de maintien au pouvoir, a rejeté cette nuit le plan de relance de 900 milliards de dollars adopté la veille par le Congrès après des mois de blocage. Il a estimé que le montant proposé par chèque aux familles, 600 dollars, était ridiculement faible et souhaite 2000 ou 4000 dollars pour un couple. Donald Trump qui a annoncé dans une vidéo qu'il ne paraphrait pas cet accord pourtant obtenu de haute lutte sans des changements substantiels. Retour en France, où le Conseil d'État, saisi par les professionnels de la culture, doit rendre sa décision dans la journée sur cette question. Les théâtres et lieux de culture structures pourront-ils ou non recommencer d'accueillir du public? En attendant de le savoir, focus ce matin sur la Comédie française, au lieu de la culture théâtrale qui, dès le premier confinement, s'est lancée dans une stratégie de programmation en ligne, avec succès puisqu'elle totalise 8 millions de vues entre mars et juillet dernier, via des produits comme une web TV intitulée La Comédie continue ou encore, depuis cet automne, l'opération Comédie d'automne. Le reportage de Benoît Grossin.
Les programmes de Comédie d'automne ont déjà été suivis par plus de 620 000 personnes.
620 000 personnes, ça veut dire 620 salles Richelieu complètes.
Nicolas Lormeau, pressé comme les autres sociétaires de la Comédie française de renouer avec le public sur scène, reconnaît un avantage à la diffusion en ligne.
Ça nous permet de toucher des gens qui ne sont pas à Paris, pas en région parisienne, même pas en France par moment.
Pour écouter des lectures le soir à 19h de l'œuvre Fleuve de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu.
Heure par heure, les comédiens français se relaient pour faire entendre ce récit presque sans fin. Pour l'instant, on en est à l'ombre des jeunes filles en fleurs. C'est le virus qui décidera ou quand est-ce qu'on s'arrêtera.
Autre rendez-vous en ligne, le samedi à 20h, Théâtre à la table rassemble des comédiens préparant la création d'une pièce. Nicolas Lormeau a mis en dramaturgie les fausses confidences de Marivaux.
C'est une façon d'ouvrir les salles de répétition aux spectateurs, de donner à voir une étape de travail qui est le moment où, une fois qu'on a débrouillé, qu'on a réfléchi, qu'on a un tout petit peu compris comment marche la pièce, eh bien, on regarde, texte non su, si jamais ce qu'on s'est raconté tient à peu près la route, à l'écoute.
La prochaine édition de Théâtre à la table, samedi 26 décembre, sera musicale, avec des artistes du français qui joueront et interpréteront Barbara, Serge Gainsbourg, Étienne Dao, William Scheller ou encore Anne Sylvestre.
Et sur le site de France Culture, vous pourrez retrouver un entretien avec Éric Ruff, le patron de la Comédie française.
Allez, vite, 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 voilà.
Je vais lui faire éclater les genoux, moi, avec sa sale gueule et son type antisémite.
T'es malade, en panne, enceinte, drogué, un coup dur, tu téléphones.
Je maîtrise la consommation. Parce que je te signale que l'année dernière, on a tapé dans les 30 bouteilles en 15 jours.
Une voix rocailleuse et chaude, reconnaissable entre toutes. On a appris hier donc la mort de l'acteur Claude Brasseur à 84 ans. Acteur de théâtre, de films pour petits et grands écrans et de séries. Pour les plus jeunes, c'était Jackie dans Camping. Pour leurs aînés, le père de Vic dans La Boum. Issu d'une lignée de comédiens, fils de Pierre Brasseur et Odette Joyeux, Claude Brasseur a marqué 6 décennies de cinéma et de théâtre français. Un mot du temps de ce mercredi pour finir. Il restera très doux mais nuageux sur l'ensemble du pays avec au nord de la pluie et à l'ouest du vent qui devrait se propager, ce vent vers l'intérieur du pays jusqu'à la région parisienne en soirée. Les températures, elles sont largement au-dessus des normales de saison. Comptez cet après-midi de 12 à 16 degrés en général, jusqu'à 20 degrés sur le sud de l'Aquitaine et la Corse.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Dans une dizaine de minutes, le reportage de la rédaction. Il s'intéresse aux conséquences de la pandémie sur le secteur aéronautique français. Et puis, dans quelques instants, on va évoquer le canard enchaîné, le volatile se met au numérique.